SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tungandamé pour vous accompagner ce jeudi 7 mars. Au sommaire, comme tous les jeudis, nous allons décrypter l'actualité économique avec Nicolas Perpich. Nous reviendrons également sur un scandale raciste qui secoue l'Australie suite à la diffusion d'images des jeunes enfants aborigènes ligotés avec des lanières en plastique. Le festival Wuma Adelaide qui débute demain sera également au menu de cette édition. Nous découvrirons la compagnie On Off, l'une des troupes françaises les plus attendues à Adelaide ce week-end. Place à présent à l'actualité de ce jeudi 7 mars, suivi par le magazine des sports qui vous sera présenté par Christophe Mallet. Le trésorier fédéral indique que le prochain budget mettra l'accent davantage sur la croissance que sur la lutte contre l'inflation. Au Sénégal, la présidentielle pourrait se tenir le 24 mars prochain, avant la fin du mandat du président Macky Sall. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre grec échappent de justesse à une frappe d'un missile russe à Odessa. Le trésorier Jim Chalmers lance un avertissement de ne pas prendre à la légère la perte de vitesse de l'économie nationale et a déclaré que la lutte contre l'inflation ne serait pas le seul objectif du prochain budget fédéral. En effet, les chiffres de croissance faible publiés hier ont révélé que l'économie n'avait augmenté que de 0,2% au cours du trimestre de décembre. Monsieur Chalmers affirme qu'il n'y aura pas de changement radical dans la réduction de l'inflation, mais que la croissance lente doit être également prise en compte. Il a précisé en outre que ce n'était pas encore mission accomplie en ce qui concerne l'inflation.
What I'm trying to convey is that the balance of risks is shifting in our economy from what was almost a sole focus on inflation, successful focus, seeing the way that inflation is moderating. And now we're in kind of trickier terrain when it comes to balancing those pressures in our economy. The degree of difficulty in the third budget is different to the degree of difficulty in the first two.
Le Parti travailliste fédéral a défendu ses investissements dans des projets d'énergie renouvelable suite à l'annonce qu'un important parc éolien en mer sera réduit à un cinquième de sa taille initiale. La zone de l'océan Austral, située à une vingtaine de kilomètres au large du Victoria, près de la zone industrielle de Portland, ne couvrira que 1030 km² alors que le plan initial avait prévu qu'il s'étalerait sur une superficie de plus de 5000 km². Cette révision à la baisse fait suite à des consultations environnementales et marines qui ont soulevé des préoccupations concernant la perte d'habitat. Le ministre fédéral du changement climatique et de l'énergie, Chris Bowen, a déclaré à la ABC à Melbourne qu'il continue de privilégier l'énergie solaire et éolienne par rapport à d'autres sources d'énergie.
Solar is now the cheapest form of energy that's ever been available to humankind. So that's a massive opportunity. Onshore wind, the price does move around, but again, the cost curve is positive. The only thing where the cost continues to go up and everything continues to get harder is nuclear.
Les défenseurs des Premières Nations au Victoria ont vivement critiqué les conditions décrites dans un rapport de l'Ombudsman du Victoria sur les soins de santé en prison. Le rapport a révélé que le manque de participation des peuples autochtones aux politiques de santé a un impact dévastateur non seulement sur leur santé physique et mentale, mais aussi sur leur bien-être culturel et spirituel. Le service juridique aborigène du Victoria affirme que le vécu des prisonniers montre que le gouvernement ne respecte pas ses engagements en matière de traité des réductions des inégalités en ne fournissant pas des services culturellement sûrs. Les recommandations du rapport visent à garantir une plus grande participation des peuples autochtones dans les prises de décisions en matière de santé. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle pourrait se tenir le 24 mars 2024, soit dans 2 semaines et demie. Le Conseil constitutionnel sénégalais a en effet estimé que le scrutin devait se tenir avant le 2 avril, date de fin de mandat du président Macky Sall. Le Conseil constitutionnel a aussi demandé d'organiser le scrutin dans les meilleurs délais. Dans un communiqué publié hier, on apprend que le chef de l'État sénégalais a fixé la date du premier tour de la présidentielle au 24 mars. Ce, après plusieurs semaines de crise politique qui ont suivi le report du scrutin initialement prévu le 25 février. Explication de cette tournure, Magali Lagrange pour RFI.
Le Conseil constitutionnel sénégalais a estimé que le scrutin devait se tenir avant le 2 avril, avant la date de fin du mandat de Macky Sall et non pas le 2 juin. Dans un communiqué ce soir, on apprend que le chef de l'État a fixé la date du premier tour de la présidentielle au 24 mars. Le Conseil constitutionnel lui proposait une autre date avant la fin du mois également, mais pas le 24 mars. Autre sujet sur lequel s'est prononcé le Conseil constitutionnel sénégalais, les candidatures. Il estime que la liste de 19 candidats déjà validés avant le report de la présidentielle le mois dernier ne doit pas être modifiée. Pour rappel, le Conseil avait été saisi par le président pour se prononcer sur les préconisations du dialogue de la semaine dernière. Par ailleurs, le gouvernement au Sénégal a été dissous. Ce soir, le Premier ministre Amadou Ba, libéré de ses fonctions pour battre campagne en vue de l'élection. Selon la présidence, il est remplacé par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba.
En France, Emmanuel Macron recevra aujourd'hui les chefs des partis à l'Élysée pour aborder la question ukrainienne avant un débat le 12 mars à l'Assemblée et un autre débat le 13 au Sénat. Comme nous explique Valérie Gasse, le chef d'État veut éveiller l'opinion sur les enjeux en France de la guerre en Ukraine.
C'est la séquence Ukraine acte 2 pour Emmanuel Macron. En rencontrant les chefs de parti français, le président engage le volet politique de sa stratégie de remobilisation autour de la guerre en Ukraine lancée depuis la visite du président Zelensky en France et la conférence sur l'aide à l'Ukraine organisée à Paris, à l'issue de laquelle il avait mis les pieds dans le plat en évoquant la possibilité d'envoyer des troupes sur place. Une manière de remettre le dossier ukrainien au cœur du débat européen et national dans un agenda qui ne doit rien au hasard. Dans 3 mois, il y a les élections européennes et à entendre une élue de la majorité, pour la première fois, on va toucher le quotidien des gens dans cette campagne, car la guerre remet au premier plan les questions de souveraineté, de défense, d'énergie. Un ministre explique lui aussi qu'il faut mettre le débat autour de ce scrutin au bon niveau, la guerre ou la paix, notamment en posant la question au Rassemblement national de savoir s'il veut la victoire de la Russie ou pas. Emmanuel Macron renfile donc son costume de chef de guerre et de campagne.
Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont échappé hier de justesse à une frappe de missiles russes alors qu'ils effectuaient une visite en mer Noire. L'attaque contre le port d'Odessa s'est produite à environ 500 à 800 mètres de l'endroit où se trouvaient les deux dirigeants et leurs délégations respectives. Le président Zelensky a déclaré aux journalistes que l'attaque était si proche qu'ils ont pu la voir de leurs propres yeux. Et selon la marine ukrainienne, cette frappe russe a coûté la vie à 5 personnes. Les rebelles houthis du Yémen ont lancé des missiles contre un navire commercial dans le golfe d'Aden. Cette attaque aurait coûté la vie à 2 membres d'équipage et en a blessé 6 autres. C'est la première frappe mortelle dans une campagne d'attaque menée par les houthis en réponse à la guerre d'Israël dans la bande de Gaza. Les 2 décès ont été confirmés par des responsables britanniques et américains. Le porte-parole militaire houthi, le général Yahya Saria, affirme que l'équipage du navire a ignoré les messages d'avertissement avant la frappe.
The Yemeni armed forces persist in upholding their religious, moral and humanitarian duties in supporting the oppressed Palestinian people, and their operations in the Red and Arab Seas will not stop until the aggression stops and the siege on the Palestinian people in the Gaza Strip is lifted.
Et l'Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice, la CIJ, de prendre des mesures d'urgence supplémentaires contre Israël pour prévenir la famine à Gaza. Dans sa demande, l'Afrique du Sud cite une famine généralisée dans l'enclave dévastée et affirme qu'Israël viole des mesures déjà imposées par la Cour. En janvier, la CIJ a ordonné à Israël de s'abstenir de tout acte pouvant relever de la Convention sur le génocide et de veiller à ce que les troupes israéliennes ne commettent aucun acte génocidaire contre les Palestiniens. Le blocus presque total d'Israël sur Gaza et les combats en cours ont rendu presque impossible la livraison des fournitures essentielles. Le coordinateur humanitaire pour les territoires palestiniens occupés, James McGoldrick, affirme que la faim a atteint des niveaux catastrophiques, plus particulièrement dans le nord de Gaza.
Their children are now, as we see in the images on the media, who are dying of hunger-related diseases. And in order to prevent that from happening, we have to have a plan that allows us to, you know, prevent famine. We need to significantly scale up the humanitarian assistance in there. And we have to get up at least 300 trucks a day. Right now, we're lucky if we're getting about 150.
Et selon les organisations humanitaires, 300 000 personnes vivent encore à Gaza, dans le nord de l'enclave, et la plupart d'entre eux sont obligés de manger du fourrage animal pour survivre. Et retour en Australie, où les uniformes officiels de l'équipe olympique australienne ont été dévoilés. Chaque uniforme vert et or incorpore des imprimés autochtones signés Paul Fleming, qui appartient au peuple Yugera, et David Bossoun, qui lui est un artiste originaire du détroit de Torres. Écoutons Anna Mears, quadruple championne olympique de cyclisme et chef de mission de l'équipe australienne.
When you consider how many sports and different types of bodies and athletes that those sports create and present, weightlifters, cyclists, runners, gymnasts, volleyballers, there's an immense amount of ability required to be able to make it unique to each sport and to each athlete, because not only do we want them to look good, we want them to feel good, because when they feel good, they go good.
On précise qu'entre 460 et 480 athlètes australiens devraient composer l'équipe nationale olympique. Ils participeront dans 30 sports. Un coup d'œil météo à travers les principales villes du pays. Perth, 35 degrés. Adélaïde, 33. Melbourne, 23. Hobart, 22. Canberra, 29. Wollongong, 25. Sydney, 27. Newcastle, 29. Brisbane, 29. Cairns, 32. Et Darwin, 32 degrés. Place à présent au rappel des principaux titres. Le trésorier fédéral indique que le prochain budget mettra l'accent davantage sur la croissance que sur la lutte contre l'inflation. Au Sénégal, la présidentielle pourrait se tenir le 24 mars prochain avant la fin du mandat du président Macky Sall. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre grec échappent de justesse à une frappe d'un missile russe à Odessa.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous êtes à l'écoute du programme en français sur la radio SBS et cette édition vous est présentée depuis Narm. Narm, c'est le nom aborigène de Melbourne. À présent, nous retrouvons Christophe Mallet pour toute l'actualité sportive.
Journal des sports, on débute avec du cyclisme et la bonne nouvelle si vous êtes fan donc de l'équipe Jayco, l'équipe australienne. Luc Plapp est en jaune dans le Paris-Nice. C'était la quatrième étape de la course vers le soleil, comme on l'appelle. Victoire dans cette étape de Santiago Buitrago. Mais l'important est d'avoir Luc Plapp, le co-leader de cette équipe Jayco, en jaune donc sur les routes de Paris-Nice. On l'écoute, Luc Plapp.
Definitely didn't picture the day to go like this or this race at all, so it's a massive bonus. I think the whole team stood right on a high from yesterday. We're really, really happy with that. I think as an Aussie team, we really thrive on those type of races, so being able to race that Triple T as a team, I think just gave us great morale going into today, and yeah, it's a massive bonus. Heyman in the car just said, oh, make sure you're one of the first through that corner. And I got through the corner on that penultimate climb, and I'm not sure who the quick step rider I was with, but he looked back and he's like, ah, we're alone if you want to keep going. So yeah, it wasn't the plan at all. Chris is definitely the guy that we were trying to also set up and protect too, so we had a bit of a two-pronged attack today. And yeah, some days it just plays out like that. It definitely wasn't the plan at all, but yeah, super happy with how it worked out. I really tried to just pace it as fast as I could, bottom to top. I knew we had a gap after I had a gap on him after yesterday's Triple T, so yeah, I treated it like a time trial. I knew that there might be a reward at the finish line, so it's awesome. It's a dream come true to be in this yellow, so yeah, whatever happens for the rest of the week's awesome, but really looking forward to helping Dylan and Bling in the next couple of days and hopefully get another stage win for the team.
C'était donc Luc Plapp, le nouveau leader du Paris-Nice. Le Paris-Nice, je vous rappelle, vous pouvez le suivre tous les soirs à l'antenne de SBS Télévision ou sur SBS En Demande. Allez, grosse page de football maintenant. C'était les huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich qui bat la Lazio 3-0 et le Paris Saint-Germain qui bat la Real Sociedad. C'est une bonne nouvelle, le Paris Saint-Germain est donc qualifié pour des quarts de finale. C'est une première depuis 2021, la huitième dans l'histoire du club et surtout la septième fois depuis l'ère Qatari. On écoute Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Nous, les entraîneurs, on essaie toujours de trouver des solutions. Après, c'est aux joueurs de le faire. C'est eux qui ont bien joué. Ils ont été aujourd'hui à un très haut niveau tous, très solidaires en défense, très précis en attaque. On a fait une double confrontation très intéressante.
Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On écoute également Kylian Mbappé. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de Kylian Mbappé. Des rumeurs sur le banc, sur l'état dans les vestiaires. Enfin, en tout cas, beaucoup de rumeurs sur des conflits avec le coach. Kylian Mbappé nous éclaire sur cette situation.
Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un.
Voilà donc Kylian Mbappé, il n'y a pas de problème avec l'entraîneur, nous dit-il. Allez, un mot des perdants du jour avec le Malien Amari Traoré. Il est défenseur à la Real Sociedad, il a des bons mots pour les Parisiens.
On n'a pas su bien sortir le ballon comme on sait le faire. Et notre pressing aussi n'était pas à la hauteur comme d'habitude. Le schéma tactique qu'il a mis a été bénéfique pour eux. Notamment le placement de Dembélé qui changeait vraiment la sortie des balles du PSG. Il se mettait bien entre les lignes. Et nous, comme on faisait un pour un tout le terrain, on avait toujours un retard. On savait très bien que Paris était favori. S'ils jouaient à leur niveau, ça allait être compliqué pour nous. Voilà, on a tout donné. On a essayé de rivaliser. Mais voilà, bravo à Paris et voilà, on j'espère qu'ils vont aller haut.
Amari Traoré, donc, de la Real Sociedad. Les autres résultats, Real Madrid et Leipzig font match nul 1-1, qualification des Madrilènes. Match également entre Manchester City et Copenhague. Manchester City se qualifie au total 6-2, mais 3-1 sur le résultat du match d'hier. On écoute tout d'abord l'entraîneur Pep Guardiola. Il se méfiait de ses
Quand je suis arrivé à Barcelone les premières années, j'ai toujours senti que nous irions au moins en demi-finale. Aujourd'hui, atteindre la finale est très difficile. Les équipes et leurs entraîneurs progressent sans cesse. À la fin, ce sont les meilleurs qui se qualifient. Je suis toujours conscient de ce que nos joueurs doivent faire. Je connais parfaitement la force et la qualité de Copenhague. Cela fait 2 ans de suite que nous jouons contre eux avec le même entraîneur. J'apprécie particulièrement leur manière de défendre. Ils sont compacts et font de très bons mouvements.
Pep Guardiola, donc l'entraîneur de Manchester City. On écoute également Erling Haaland, c'est la pépite de Manchester City. Beaucoup de rumeurs sur un départ éventuel du joueur, donc du club mancunien. Mais pour lui, il se concentre sur son match, sur son tournoi et sur son club. On l'écoute.
Je me concentre principalement sur ce qu'il se passe sur le terrain. Il y a beaucoup de matchs. Il y a deux jours, c'était le derby face à Manchester United. À présent, c'est ce match de Ligue des Champions contre Copenhague. Et dimanche, ce sera la rencontre à Liverpool. Voilà ce qui compte pour moi. Je ne dois pas penser à autre chose pour le moment.
Erling Haaland, donc le joueur de Manchester City. Et ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. À tout de suite.
C'était Embrassons-nous par Gatica et cette chanson extrait de l'album Altamar. Nous allons passer à une courte pause, mais restez à l'écoute parce qu'après la pause, nous retrouverons l'actualité économique de cette semaine dans une chronique signée Nicolas Perpich.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité économique avec notre spécialiste sur la question, c'est Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Alors cette semaine, on va parler d'une chose qui touche à peu près tout le monde si vous avez une carte de crédit. Donc il y a des centaines de millions de dollars qui sont payés en surcharge par tout le monde, hein, par vous, par moi, par chaque Australien si on a une carte de crédit. Mais le gouvernement va plutôt essayer de regarder tout ça et de faire réduire la facture surtout.
Ouais, voilà, au moins réduire, parce que c'est des frais un peu cachés. Bon, on est censé savoir, mais c'est facile à oublier que chaque fois qu'on utilise la carte de crédit, il y a des surcharges supplémentaires. Et en fait, ça a été calculé qu'en tout, les Australiens payent presque 1 milliard de dollars chaque année en surcharge.
C'est raisonnable, donc, un milliard de dollars, c'est raisonnable, c'est énorme.
C'est rien. Voilà, mais alors, on n'y pense pas. Mais si, par exemple, on va acheter un sandwich et un café avec une carte de crédit, on paye à peu près 21 centimes en surcharge. Et si on fait ça tous les jours et on achète plein d'autres trucs avec les cartes de crédit, pour chaque personne, ça peut être à peu près 200 dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que en Europe et au Royaume-Uni, ça c'est interdit. Ça se passe pas du tout. Mais ici, les détaillants ont le droit. Donc, ils font payer les clients pour les frais, pour être remboursés en effet pour les frais qu'ils doivent payer aux banques chaque fois que quelqu'un utilise une carte de crédit.
Ce qui est en fait hallucinant, excuse-moi de vous interrompre, mais ce qui est hallucinant dans le sens où avec le Covid, après le Covid, on a tous pris des habitudes. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai eu du cash sur moi, des espèces sur moi.
Oui, et en fait, même des magasins maintenant qui refusent.
Oui, qui refusent pleinement.
Qui refusent carrément de prendre du liquide, de l'espèce et des espèces. Et donc, c'est vrai qu'on utilise très, très peu maintenant l'argent en cash et donc c'est ça la raison pour laquelle le gouvernement commence à examiner ça d'un peu plus. Les banques, l'association des banques disent qu'en fait eux ils ont déjà fait baisser les frais par 13% l'année dernière, mais ce que le gouvernement a fait, ou en fait c'est la banque centrale plutôt qui a introduit quelque chose qui s'appelle the least cost routing, LCR. Et ce que ça veut dire, c'est que les machines à carte des business vont automatiquement chercher et utiliser les réseaux de paiement les moins chers, parce qu'il y a plusieurs réseaux de paiement, et comme ça automatiquement ils cherchent celui où tu payes le moins. Le problème, c'est que pour le moment il y a à peu près 64% des machines autour de l'Australie, dans les magasins, etc., qui ont ce système de LCR, et le gouvernement dit que ça, c'est trop bas. Il faudrait plutôt vers 80-90%. Les banques eux hésitent un peu parce que ça veut dire que c'est eux qui doivent payer. Mais le gouvernement donc examine si peut-être ils vont rendre ce système obligatoire.
Et il y avait
donc,
quelque chose d'insidieux. Il y a quelque chose d'insidieux de nos jours maintenant, c'est que on est tous en tap and pay. On fait même plus notre code. Avant, on avait le choix de dire je veux FPOS ou je veux savings ou je veux credit quand on rentrait la carte. Et maintenant, en gros, plus personne le fait. On touche et on tap and pay et on n'a plus le choix de savoir comment ça va être.
Et en fait, c'est FPOS qui est le moins cher. Les autres sont plus chers. Et donc, comme voilà, exactement ça. On tap and pay, c'est tellement facile. On y pense à peine. Et c'est parti, tu continues, ça dure peut-être un échange de 20 secondes et t'es parti. Et voilà, il y a encore 20 centimes, 30 centimes que tu payes.
Je vais pas vous mentir, il y a à peu près 15 minutes, j'ai été m'acheter un sandwich, il valait 10 dollars, je sais, c'est une super affaire, il valait 10 dollars, j'ai payé 10,21 $.
Voilà, exactement.
Exactement.
Ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
Je viens de vérifier pendant qu'on parlait. C'est tout. Je savais même pas. Je viens juste de vérifier pendant qu'on parlait.
Ouais, voilà. Donc, 21 centimes, c'est rien, mais quand tu fais ça tous les jours, toute l'année, ça compte. Alors, le gouvernement ici ne va pas aussi loin que l'Union européenne ou le Royaume-Uni. C'est un peu un mi-chemin, où ça va être obligatoire d'avoir le LCR, probablement. Mais c'est intéressant, les banques ici ont pas mal de pouvoir, il n'y a que 4 banques, donc c'est assez centralisé. L'association des banques, le chef c'est Anna Bligh, qui est l'ancien premier du Queensland aussi, c'est une association très puissante, donc il y a peut-être pas mal de pushback par cette association pour que ça ne soit pas interdit.
Il y aurait du lobbying. Il y aurait du lobbying existerait. Non.
Incroyable.
Breaking news.
Oui, voilà. Alors, c'est intéressant. Peut-être c'est possible si on demande chaque fois qu'on va au magasin, on dit je voudrais payer par FPOS, pas d'autres systèmes.
Ouais.
Mais parfois c'est pas du tout. Il n'y a même pas le choix. Si c'est tap and go, quand on paye pour l'essence, etc., il n'y a pas de choix.
Absolument. Allez, on va parler maintenant du coût des assurances maladie, des assurances santé, un coût qui pourrait augmenter.
Voilà, ça c'est pas des frais cachés. Ça c'est tout à fait transparent.
Ça c'est des frais transparents qu'on voit bien passer tous les mois.
Qu'on voit très très bien passer. Et en fait, chaque année c'est la même chose. Les grandes compagnies d'assurance demandent au gouvernement et disent on voudrait lever les primes par tel et tel. Et le gouvernement dit oui ou non. Alors cette fois, ils ont demandé à peu près 6% que les primes soient montées par 6%. Le gouvernement donc a dit non. Donc c'est le ministre de la Santé qui s'en occupe, et Marc Patla, et il a dit qu'en fait c'était pas dans l'intérêt public. Donc il a dit non, mais il s'est mis d'accord pour 3%. Donc en moyenne, nos primes d'assurance santé vont monter par 3%. Mais ça c'est la moyenne quand on calcule tous les primes différentes des compagnies différentes, parce que en fait chaque compagnie a une prime différente. Donc par exemple là, si on est avec CBHS Corporate Health, les primes vont monter par 5,82%. NIB c'est 4,1%. Medicare c'est seulement 3,31%. Donc ça vraiment ça dépend, mais la moyenne c'est 3%. Et donc c'est assez cher, mais c'est quand même moins que les salaires viennent de monter dans l'année dernière, et c'est moins que l'inflation aussi. Et ça c'était aussi la raison du ministre. Il disait que 6% c'est trop quand on a déjà tellement d'inflation. Donc voilà, c'est la moitié à peu près.
D'accord. Vous savez que ce qu'on dit en France, on dit tout augmente, ma petite dame.
Tout augmente. Voilà. Hein. Ça baisse jamais. Ça baisse jamais.
Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actu économique cette semaine.
Merci Christophe.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Et c'était Promenade par Gaëtan Roussel. Et voilà, cette semaine, l'Australie est secouée par une affaire de racisme après qu'un contractuel ait ligoté des enfants aborigènes au motif qu'ils se baignaient dans une piscine ne leur appartenant pas. pour en savoir plus, surtout sur les ramifications juridiques de cet acte. Je me suis entretenu avec une universitaire et avocate aborigène. On la retrouve tout de suite après la pause.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
L'Australie est secouée par une histoire de racisme envers les aborigènes, après que des images ont commencé à circuler montrant des enfants aborigènes âgés entre 6 et 7 ans, ligotés et en état de détresse. Les faits auraient été commis par un contractuel qui, se rendant sur une propriété privée pour y effectuer des réparations, a découvert les trois enfants en train de se baigner dans la piscine en l'absence des propriétaires des lieux. L'homme, un habitant de Broome en Australie occidentale, a été inculpé par la police pour ces faits. Je me suis entretenu avec la professeure Hannah McGlead, une spécialiste des droits de l'homme à l'Université de Curtin d'Australie occidentale et avocate. Pour Hannah McGlead, l'incident de Broome est le symptôme d'un racisme généralisé. Elle souligne par ailleurs des manquements de l'Australie quant au respect des instruments internationaux pour la protection du droit des enfants. On l'écoute.
It's very shocking, isn't it? And it's going through the Aboriginal communities across the country, actually. Like lightning because of the video footage that has been shared and showing that there really are very young children, I think 5, 6, 7 years or about, actually tied up with Ziploc, you know, crying and screaming with a very big non-Aboriginal man walking in a threatening manner in front of them. He's clearly restrained them in this unlawful way.
What are the, from a legal perspective, what are likely the legal consequences that this can't call him a gentleman, will be faced with?
The West Australia Police have charged him with 3 counts of assault. So he will face court with assault charges. Now, the maximum penalties, I believe, could be up to 18 months imprisonment or a fine. So that will be up to the magistrate. In this case, he has... you know, he appears to have engaged in racially motivated offence. Now, this is recognised under the criminal code and it is seen as an aggravating circumstance, but there's no indication that the police have factored this into the charging. I do think they should, because we don't see non-Aboriginal children being treated in such a violent and abusive manner. It's a very serious assault on the children. Actually, I'm looking at the maximum penalty the magistrates can impose is a term of imprisonment of 18 months and a fine of $18,000. So we certainly don't want to see this person getting a slap on the hand. This is vigilantism directed at very young, vulnerable children and no doubt has been extremely traumatic for them.
What needs to be done to tackle this kind of racism more broadly? Even the Australian government needs to do something at this day and age. It's just disturbing to see this happening. What needs to be done on a higher level other than
We do need to take racism seriously in Australia, and our governments have responsibilities under the UN Convention on the Elimination of Race Discrimination. But unfortunately, our efforts, you know, the efforts of government are too often quite tokenistic. They're really not tackling the racist sentiment. And in this case, actual racist violence enacted on young children. And, you know, what had they done wrong? Apparently they were swimming in a pool. We have climate change, and Indigenous people and children are particularly affected by climate change. Indigenous people are affected by poverty. And, you know, swimming pools do cost money. They need to be made free to people, low-income people of Aboriginal and non-Aboriginal inclusive. We've got to be responsive to community needs. West Australia is actually a very rich state. And to see Aboriginal children, you know, who wanted to cool down on a very hot day, no doubt, being tied up and traumatised in such a horrible manner, it is shocking and alarming, and it is a wake-up call. A wake-up call to all of Australia, it should be, that our children bear the brunt of ugly, violent racism in this country.
Being violent of racism just because of a lack of amenities for them to be able to cool down. But also when I was talking about the federal government's implication and what needs to be done, Australia still hasn't ratified the optional protocol attached to the Convention on the Rights of the Child, the additional protocol
That's right. They haven't. You know, they haven't. They are not upholding the Convention on the Rights of the Child. Neither the federal or the state governments are respecting a binding international treaty that concerns children. You know, as I said, there's hypocrisy and there's lack of commitment to human rights. We're breaching the convention in a number of respects. We are now incarcerating children, mainly Aboriginal, in adult facilities, in prisons. And in regional Australia, you know, Aboriginal kids particularly have been locked up in police stations for a long time now. Now, that's prohibited by the UN Treaty on Child Rights. And, of course, the UN Treaty body has told Australia to raise the age from 10 years to 14 as minimum. And our governments have ignored that advice, blatantly ignored it. The optional protocol instrument is very important because it allows children whose rights are being violated by their government and its authorities to take that matter to the UN committee for a determination, for a decision. And that's critically important, but our government says they simply won't sign the optional protocol to the Convention on the Rights of the Child.
How concerning is it that very young children were involved in the alleged incident that is just still going viral on social media?
Well, I think it shows just how serious a problem racism is when young children can be attacked by an adult, assaulted in a very cruel manner, inhumane manner, as has happened. We have the video evidence and the footage circulating, and we can see that. So, you know, that is very worrying. And for the children themselves, no doubt they are traumatised by what's happened. We can see them crying and they're definitely anguished during that, as any young children would be experiencing that kind of treatment. And, you know, we have to, you know, really hope that this is, that the trauma impacts are able to be resolved. They will need counselling from this. You know, this is just really very worrying on so many levels, from the failure of our government to be serious about Indigenous people's rights and addressing racism, to, you know, the actual personal impacts on Aboriginal children who may have already experienced trauma in their life, to be the victims of violence and racism at such a young age. It's quite shocking.
Well, Professor McGlade, thank you very much for taking the time to talk to us and give us some insights into this very disturbing incident.
Thank you.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
C'était Le Sel par Olivia Ruiz. Partons à présent à la découverte de la compagnie On Off, une des troupes françaises les plus attendues au festival de Womadelaide qui commence ce week-end. Nous découvrons la troupe avec la directrice artistique de la troupe, Cécile Tircuire. J'ai le plaisir de recevoir Cécile Tircuire, directrice artistique de la compagnie On Off, en marge de la participation de la compagnie au festival Womadelaide 2024. Cécile Tircuire, bienvenue sur SBS French.
Merci de m'avoir invité.
J'aimerais d'abord vous poser une question sur le nom de votre compagnie On Off. En anglais, ça veut dire éteindre et allumer. Ça peut aussi vouloir dire sur scène, hors scène. En tout cas, c'est un nom qui interpelle. Avant d'aller dans le vif du sujet, parlez-nous de ce nom.
Eh bien, écoutez, vous avez parfaitement résumé l'idée. Ce nom de compagnie On Off vient d'un collectif. Au départ, la compagnie On Off était un collectif de circassiens. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a choisi un anglicisme. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le on et le off? Est-ce que c'était en rapport avec le fait d'être dans le in, dans le off? En France, c'est assez prégnant, assez hiérarchisé d'être dans le in, dans le off, ou bien au contraire dans le on, dans l'action, ou bien effectivement. Et moi, j'aime beaucoup. Du coup, je pense que je vais récupérer cette façon de présenter la compagnie et ce on off en disant c'est sur scène, mais c'est aussi en dehors de la scène. C'est tout un ensemble, en fait, un travail de compagnie. C'est à la fois un travail artistique, mais c'est aussi des questionnements éthiques, des valeurs humaines, des choix. Il y a la partie émergée de l'iceberg qui correspond peut-être au on. Et puis, il y a la phase immergée de l'iceberg qui est énorme aussi et qui fait partie de notre travail et de ce qui est beau aussi.
On dit que votre compagnie se caractérise par deux axes majeurs, création de spectacles vivants et mise en place de projets d'implication du public. On peut dire que ces aspects-là s'imbriquent dans le nom, peut-être aussi.
Peut-être aussi. Vraiment, c'est drôle parce que quelquefois, on choisit des noms, on choisit des prénoms d'un enfant et tout d'un coup, le sens de enfin, le choix du prénom ou le choix d'un titre de spectacle vient tout d'un coup s'illuminer de sens de par les personnes qui sont en face et qui vont réagir à cela. Quand vous dites qu'effectivement la compagnie travaille sur des créations artistiques, mais aussi avec des publics, c'est vrai que il est vraiment très important pour moi et pour l'équipe de toujours rester avec les personnes qui sont en face de nous. On se perçoit pas comme des artistes, nous ne sommes pas illuminés, nous ne sommes pas, c'est pas la vision romantique de l'artiste qui crée dans son coin en souffrant ou autre. D'ailleurs, il n'y a pas finalement de statut privilégié à cela. On est en relation. Pour moi, le fait d'être artiste, c'est d'être en lien avec le monde, d'être en lien avec les personnes que l'on va rencontrer, que ce soit dans nos spectacles ou que ce soit dans des projets que l'on va fabriquer ensemble. Mais c'est aussi le lien avec les structures qui nous accueillent. C'est aussi les liens avec vous. C'est, pour moi, c'est vraiment une vision assez holistique, assez globale d'un métier. Et c'est ça qui m'est cher, finalement. Et peut-être que ça oriente, au bout du compte, la création, enfin, les spectacles, la création d'une pièce, parce que de plus en plus, j'ai l'impression que les êtres humains comptent davantage que l'artistique. Et c'est pour moi l'aspect fondamental dans aussi ce qu'on va proposer au WOMAD dans très peu de temps.
Oui, dans très peu de temps, ce sera au WOMAD El Aïd et vous êtes très très attendu. Et surtout votre spectacle... Le Chant de l'eau, parlez-nous de ce spectacle.
Le Chant de l'eau, c'est un spectacle qui est à la fois sur une expérience sensorielle, émotionnelle, intime, sur la thématique de l'eau. On est parti du principe que l'eau était un univers... très riche, que ce soit poétique, métaphorique, avec des enjeux écologiques forts, que c'était un élément fondamental de notre existence, d'autant que nous humains, constitués à 70% d'eau. Et on s'est aperçu que, enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de travailler sur le fait que quand on prend soin de l'eau, quand on prend soin de soi, on prend soin de tout le monde, en fait. Je pense aux vertus du soin et de se donner du bon. Alors ce Chant de l'eau, c'est un spectacle, une expérience qu'on propose au public, à la fois joyeuse et à la fois introspective, à la fois pour les amener à éprouver vraiment un spectacle avec autre chose que le cerveau et les yeux. J'aime infiniment toute l'approche corporelle de considérer une personne avec des sens. On a une ouïe, on a un odorat, on a un sens du toucher. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui nous bombarde d'images. Et j'avais envie un peu de prendre le contre-pied de ça en proposant une expérience sans les yeux. Donc, en se coupant d'un des sens principaux et par conséquent de vivre autre chose au niveau de l'acoustique, du son, de la présence. C'est déjà une mise en difficulté en soi, en fait, le fait de ne pas voir, d'autant qu'on va emmener les, je sais pas s'il faut le dire, mais si, on va quand même emmener une partie de l'expérience, c'est de marcher les yeux fermés. Et c'est quelque chose en soi qui t'oblige à lâcher prise, à faire confiance. Ça met dans une zone d'inconfort qui va décupler le sens du toucher, l'odorat. En fait, tout le cerveau va se mettre en état d'alerte et du coup va attraper les tout micro-signes. Et c'est très intéressant parce que comme on travaille sur la musique, ensuite on va pouvoir cueillir les spectateurs un peu comme dans leur vulnérabilité, mais dans leur hyper réceptivité pour leur apporter quelque chose de doux, d'enveloppant, de cajoleur, pour qu'ils vivent une expérience agréable. Donc c'est ce mélange, le chant de l'eau, c'est à la fois un mélange d'une expérience qui a été pensée pour qu'elle soit riche, agréable, et aussi sur une thématique qui nous est chère, qui est l'eau, qui est un enjeu majeur, que nous n'abordons pas comme des militants qui veulent se positionner, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. On avait plutôt envie de travailler sur le ressenti, qu'est-ce que ça produit quand on se fait du bien. Donc, quand on fait du bien à l'eau qui nous constitue, donc par la suite, j'imagine que quand on se sent bien, on a envie de faire le bien autour de soi.
Je sais que vous allez vous produire à plusieurs reprises. Est-ce que vous allez vous produire tous les jours du festival ou il y a des dates particulières où le public peut s'attendre à venir vous voir et vos spectacles?
Nous allons jouer le 9, le 10, le 11 mars. Au Wom Adelaide à 14h, 15h et 16h tous les jours, à côté du lycée botanique. Je pense que c'est bien si les personnes s'inscrivent parce qu'il n'y a que 30 places dans les transats et sinon il y aura des places mais en tant que spectateur du spectacle. C'est aussi une expérience à part entière mais c'est différent.
D'accord, donc il faut réserver pour pouvoir bien s'immerger dans ce spectacle et participer, parce que c'est participatif, d'après votre description du spectacle. Donc,
complètement, oui. C'est complètement participatif. C'est même plus que participatif, c'est par contre personne n'est mis en scène, c'est-à-dire que quand on dit participatif, peut-être que les gens peuvent se sentir mal en se disant « Ah, tout le monde va me regarder ». C'est juste, on participe parce qu'on est allongé dans des transats, on est à l'aveugle et on va éprouver le spectacle. C'est dans ce sens-là que c'est participatif.
Et comment s'est passé votre partenariat avec Wom Adelaide, responsable du festival? Ça s'est passé comment? C'est la toute première fois que vous venez en Australie, surtout à ce festival, ou ça s'est passé comment?
Pour nous, enfin, c'est exceptionnel parce que donc on travaille beaucoup en France, dans notre région, dans le nord de la France, à Lille et aux alentours, et nous avons été repérés par le directeur du WOMAD qui s'appelle Yann Scobie dans un festival en France qui s'appelle Chalon dans la rue. Et Yann était dans l'audience, enfin l'assistance, et je pense qu'il a eu, il a apprécié ce travail, même s'il ne comprend pas trop le français. Là, je pourrais préciser que le chant de l'eau là sera joué en anglais, donc nous avons traduit le texte pour que les anglophones puissent suivre. Donc là, on a travaillé une version anglaise et. Et par contre, alors ce qui est drôle, c'est que, bon, je sais pas si c'est drôle, en tout cas c'est drôle. Enfin, moi, bon. En tout cas, le spectacle, quand on le joue en France, on se fait passer pour des Anglaises. On se fait passer pour Lucy Martin from Liverpool. Donc on parle avec l'accent comme ça, avec l'accent anglais, on fait des fautes de français comme ça.
Voilà, et là, franglais.
Hein, comment?
On parle en franglais comme nous à la radio SBS, on mélange français et anglais.
Yes, il me dit, bah alors voilà, c'est ça exactement, je pourrais faire la radio avec toi, et on tutoie tout le monde comme ça, c'est très jovial. Ah oui, c'est quand même important que je dise que le chant de l'eau, c'est joyeux aussi, parce ouais. Que dit comme ça, peut-être, c'est pas un spectacle qui est dans le bien-être, avec des gongs ou tout ça, enfin, je n'ai rien contre les gongs, mais il y a quelque chose aussi qui est très léger et joyeux, parce que pour moi la joie ça fait aussi partie de se sentir bien et de se sentir relié les uns aux autres. Et dans la version en Australie, au WOMAD, nous allons jouer en anglais, et forcément we will have a French accent, because we are not English and we are not Australian. So we are going to keep our French accent. Et comme ça, on transpose le personnage anglais qui viendra cette fois-ci de Bordeaux. We come from Bordeaux, you know.
En tout cas, ça promet un très, 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 très bon spectacle. Et avant de nous quitter, Cécile, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à notre conversation?
On est super heureuse. Nous sommes quatre femmes, quatre Françaises qui sommes un peu comme des petites filles à l'idée de traverser le globe pour découvrir ce continent. Et on est super heureuse et on remercie vraiment tout le monde, que ce soit vous de nous accueillir dans votre émission, tous les auditeurs et vous dire à quel point on est très heureux et on est très impatient de vous rencontrer pour de vrai.
Cécile Tercuire, directrice artistique de la compagnie On Off, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de votre compagnie et surtout de votre participation au festival Womadelaide 2024.
Merci à vous.
Place à présent aux principaux titres de l'actualité de ce jeudi 7 mars. Le trésorier Jim Chalmers indique que le prochain budget fédéral mettra l'accent davantage sur la croissance que sur la lutte contre l'inflation. Au Sénégal, la présidentielle pourrait se tenir le 24 mars prochain, avant la fin du mandat du président Macky Sall. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre grec échappent de justesse à une frappe d'un missile russe à Odessa. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci beaucoup de votre compagnie ce jeudi après-midi. Prochaine édition, c'est samedi et le dimanche aussi. Nous avons aussi un programme le dimanche, donc samedi et dimanche. Mais bon après-midi et à très bientôt. Je vous laisse en compagnie de Pamoun avec Par hasard.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où. Où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.